lâche. Il paraît que c'est lâche l'horreur d'être vampire. Comme c'est curieux, moi je préfère l'odeur de tes cheveux sortant de la rivière. Comme c'est curieux, moi je préfère l'odeur de ton jardin flottant au gré de l'eau. Il paraît que c'est veule de se refuser à mourir comme un insecte au champ d'honneur, la main crispée au cœur, drapé dans les plis du drapeau criblé de mille éclats, tout comme au cinéma. Comme c'est curieux, moi je préfère faire ma petite croisière fleurie sur ta rivière. Comme c'est curieux, moi je préfère l'amour sous les arceaux de ton petit jardin clos. Comme c'est curieux, moi je préfère l'amour sous les arceaux de ton petit jardin clos.
Le couteau ce matin, pénétrant dans le beurre,
sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Je reconnus la déesse.
Le Ferry Club, votre tranche hebdomadaire de Léo, entre 16h et 17h sur Radio Libertaire. Bonjour à toutes et à tous. En 2024, nous célébrions le 170e anniversaire d'Arthur Rimbaud, l'occasion d'une émission spéciale du Ferry Club autour du travail de Léo, consacré à l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Une émission à la suite de laquelle j'ai reçu un mail pour me remercier pour cette émission, ainsi que pour la fidélité à l'œuvre de Léo. Et dans ce mail était joint un lien vers deux albums de mise en musique de poèmes de Rimbaud par le groupe Claire. L'auteur du mail me disait être l'auteur des mélodies. Cet auteur, c'est toi, Gildas Venot, bonjour.
Bonjour à vous.
Ravi de te recevoir autour du micro de Radio Libertaire et du Ferry Club. Nous allons passer ensemble 7 heures, voire un petit peu plus, hein, c'est pas impossible qu'on passe un peu plus d'une heure ensemble, pour parler de Léo, pour parler d'Arthur Rimbaud, pour parler de ton travail de musicien, de deux ou trois choses en plus, hein, bien évidemment. Peut-être peut-on commencer cet entretien par une petite présentation, nous dire quel musicien tu es.
Ah bien, je commencerai par dire que je suis pas un instrumentiste.
À mon grand regret, je maîtrise pas vraiment de, je mets pas du tout même d'instrument. Je suis pas non plus un musicien qui connaît les codes de l'harmonie, de, etc. Donc je fais des mélodies. Je bricole, je fabrique des mélodies. Voilà. C'est le moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer en musique. Ce qui veut dire que à la fois je suis très libre puisque voilà je fais mes mélodies comme je veux où je veux dans la rue voilà et puis en même temps quand il s'agit de transformer ces mélodies en chansons disons de format plus voilà pour les diffuser pour les voilà et bien j'ai besoin et j'ai recours et avec plaisir à des musiciens professionnels,
d'accord.
Voilà, qui vont faire tout le travail voilà, à partir de ces mélodies.
Toi, tu es plus libre, tu es simplement... ça se passe dans ta tête, en fait. T'as pas de...
Ouais, dans ma tête, et je chantonne, je dis, dans la rue. Voilà. C'est vraiment un truc qui m'accompagne tous les jours, comme on chante sous sa douche. Hein. J'imagine que je suis pas le seul. Hein.
Oh, oui, je pense qu'on est quelques-uns, oui.
Ah ouais. Donc voilà, comme je te dis, ça a été un peu frustrant à un moment, mais en fait, maintenant, je vois quelque chose de... Voilà, une compagnie de tous les jours, agréable et très, très légère. Voilà, j'aime bien cette légèreté.
De la mélodie qui peut arriver à n'importe quel moment.
Voilà, voilà. Et puis après, bon, bah, ça comment dire, ça influe sur la chanson. C'est-à-dire que, voilà, ça va être des chansons qui vont avoir un squelette mélodique. C'est la base, c'est le plan. Donc, la mélodie restera toujours un peu... pas première, mais disons lisible. Voilà, des chansons qu'il est assez facile de chantonner, de se rappeler. Mm-hmm. C'est à la fois un truc sympa, et puis en même temps, parfois, ça peut être aussi une limite aussi, parce que bon... en tout cas, c'est comme ça. C'est des chansons qui peuvent accompagner dans la vie facilement.
Voilà, des petites mélodies simples, des choses, oui, un peu simples. Et je vais quand même, on va parler du groupe que tu constitues, le groupe Clair.
Ouais.
En dépit du fait que tu ne sois pas un musicien directement, on peut dire quand même que tu en es l'épine dorsale un petit peu de ce groupe.
Ben, je te dis, l'origine, c'est mon envie de m'exprimer par la musique, et donc. Les chansons et puis après les mélodies, voilà. Pour certaines chansons au début, j'ai fait aussi des textes.
Mm-hmm.
Voilà.
On va détailler tout ça, bien sûr.
Et après, y avait une voix qui n'était pas la mienne, qui était celle de Géraldine. Et puis à l'origine du groupe, il y avait juste un pianiste qui était Joseph Robin.
Oui.
Après, ça a un peu évolué, on a rajouté un guitariste.
Enfin, je posais cette question en fait pour dire tout simplement que même si tu n'es pas musicien proprement parlé, on peut être un simple mélodiste et être en dépit de ça juste l'épine dorsale d'un groupe.
Moteur. Tout peut s'imaginer, j'imagine, pour faire des chansons. Et puis moi, c'est vrai que j'ai toutes les formules. Hein. Et c'est vrai que moi, j'avais cette nécessité, voilà, des chansons. Donc c'est vrai que voilà. En même temps, j'apprécie beaucoup, et je pense que c'est très important de faire appel à des gens qui savent faire ce que moi je ne sais pas, mm-hmm, et d'ouvrir un peu. Alors, c'est vrai que des fois, même pour d'autres projets artistiques, du théâtre, des choses comme ça, j'avais parfois ce désir, cette tendance à vouloir tenir un projet d'un bout à l'autre. Et bon, on s'aperçoit que c'est bien aussi de lâcher, de le faire entrer de l'air et de
d'autres énergies,
d'accepter de modifier un peu des choses, voilà. Bon, c'est en fonction de ce qu'apportent les autres. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'au début, c'est pas moi qui ai chanté, parce que je me disais, voilà, ça va être quelqu'un d'autre, ça va apporter quelque chose, je sais pas encore quoi, mais ça va peut-être un peu faire vibrer ce qui pour l'instant n'est qu'un projet, quelque chose de peut-être trop dessiné,
mm-hmm, je sais pas. Voilà. Ouais, absolument. Et juste une question comme ça, parce que elle me vient tout de suite. Claire, c'est le premier projet musical que tu portes ou tu t'es inscrit dans d'autres choses avant ?
Oh là là, avant, moi j'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de chansons, donc j'ai forcément au bout d'un moment, j'ai eu envie d'en faire, hein, voilà. Donc je tournais autour longtemps, voilà, on faisait des petits trucs avec différents amis.
Oui, quand même.
Mais non, il n'y a rien de...
rien de si développé que Claire. Et encore, Claire, c'est vraiment... ça reste très confidentiel.
Très confidentiel, mais ça fait 10 ans.
Mais voilà, c'est ça. C'est la une forme de constance. Oui, bah, j'insiste.
Bah, tu fais bien.
Écoute.
Et si l'envie est là, il ne faut pas la réfréner.
Ben oui, oui. Non, c'est bien de creuser... creuser sa ligne. De toute façon, c'est une nécessité, je ne me pose pas la question, donc je continue.
Nécessité pour toi de le faire,
oui. Oui, c'est une nécessité, c'est important. Ça, quand il n'y aura plus de nécessité, ben,
ça sera un peu plus compliqué, bien sûr. On va parler, comme je disais, de Léo, on va parler de ce travail de musicien qui est beaucoup autour d'Arthur Rimbaud, donc c'est pour ça que je citais Arthur Rimbaud tout de suite en introduction dans mon propos. Mais on va commencer par Léo. Et avec cette question un petit peu traditionnelle que j'aime bien poser en début d'entretien, comment est-ce que tu définirais Léo à quelqu'un qui ne le connaît pas ?
Eh ben écoute, je commencerai par dire ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, je dirais que, pour moi, hein, ça n'engage que moi évidemment, hein, pour moi c'est pas un prophète, un mage, même un géant de la chanson, ou des choses comme ça, je dirais pas ça. Je dénuderai à fond jusqu'à... Alors, il dit, lui, je suis qu'un artiste, là, dans l'idole, là. Moi, j'ai, ben voilà, c'est un artiste, et, bon, c'est un homme, voilà, c'est un être humain. Et je m'intéresserai, par exemple, à la vie. Pourquoi pas commencer par la vie? Parce que je trouve sa vie, elle est super. Puis, ouais. Bon, elle est en cohérence aussi, enfin, elle est super. Extrêmement lié évidemment avec son œuvre. Et ben, je sais pas, le bouquin de Robert Bellery, je l'ai lu plusieurs fois, la biographie là, c'est vraiment super, je trouve. C'est et puis aussi à la fois la vie, et puis peut-être aussi ce qui me marque aussi beaucoup, que je prends plaisir à voir de temps en temps, c'est les interviews. Notamment, il y en a une avec la télé belge, je sais plus. Et des fois, je trouve qu'il y a quelque chose de lui qui apparaît là-dedans, qui est vraiment qui est fascinant, une espèce d'intelligence et de tendresse, de trucs un peu qui comme ça, de fantaisie qui brille. Et je sais pas, non, c'est l'intelligence à ce moment-là qui me frappe. Je sais pas, je trouve que tout d'un coup il y a une espèce de comme si on buvait un truc un peu frais, un peu vif. Voilà, une intelligence, une sorte de... Ouais, d'ouf, je sais pas, c'est l'esprit. Et donc, voilà, je trouve que... Bon, évidemment, il y a toute la musique et tout le texte. Mais je trouve que souvent, il est un peu caché derrière des voilà, des caricatures, pas des caricatures, mais des un peu de grandiloquence de la manière dont on veut parler de lui ou... Voilà. Et moi, j'aime bien l'homme, en fait. Enfin, j'aime bien. Voilà, je pense qu'il a ses défauts, ses qualités. Mais je pense que ça peut être cet homme, un compagnon, quelqu'un qui peut t'accompagner, qui peut, bah, alors voilà, après, ça, voilà, moi, ça ouvre des portes, ça, voilà, ça rafraîchit, ça aide, ça consolide dans des choix de solitude, de liberté, je sais pas. Ouais. Enfin, voilà.
Ouais, les mots que tu choisis sont importants, ouais, ouais. J'apprécie. Tu connais bien l'œuvre de Léo. On l'a compris là, lorsque tu évoques le fait que tu as lu le livre de Robert Bellery. Les gens qui lisent le livre de Robert Bellery, en général, s'intéressent un tout petit peu plus qu'à cet extra et avec le temps. Mmh. En préparant cette émission, tu m'as dit que tu avais commencé à t'intéresser à l'œuvre de Léo vers 14 ans. Comment est-ce que...
Oui, tu veux que je te dise comment ?
Oui, je veux bien, avec grand plaisir, écoute, parce que 14 ans, c'est rare.
Grâce à Michel Jonas, grâce à la fabuleuse histoire de Mr. Swing, à mon père. Non, parce que j'allais beaucoup à la discothèque, voilà, de Montpellier, de ma ville. J'adorais ça. Et je sais pas, j'avais sorti... alors, je prenais beaucoup sur la foi des pochettes. Alors, plutôt chansons. Moi, je suis plutôt chanson française. Hein, voilà, et donc, j'avais pris Michel Jonas. Puis mon père me dit... je sais pas, j'ai le disque passé, me dit... Oh, on dirait un peu la voix de Léo Ferré. Oh, je sais pas trop, je sais pas si ça ressemble. Enfin bon, en tout cas, mais il connaissait pas vraiment très bien Léo Ferré, je pense. Ouais. Il m'a dit ça. Donc, du coup, moi, je dis, bon, bah, ok, je prends un disque de Léo Ferré, on va voir. Ah, ouais. Et j'ai pris, alors c'était un CD, là, c'était un CD. Bon, je sais plus. C'était parmi les premières chansons. Bon, il y avait Monsieur William, tout ça. D'accord. Et tout de suite après, j'ai pris un vinyle. Alors là, vraiment, j'ai adoré la pochette. C'était La violence et l'ennui. Et pff, ce disque, ça reste un de mes préférés. Je trouve qu'il se dégage de cette période-là aussi. Il est assez différent des autres. Voilà, avec ce piano qu'il a enregistré deux fois là, qui se superpose, tout ça. Et puis, je sais pas. Je trouve vraiment très beau. Et puis après, j'allais tous les samedis chercher ma petite cargaison de Léo Ferré.
Ah oui.
Et puis voilà. Et assez rapidement, j'avais acheté l'intégrale Le Pavé là.
Oui, ouais, absolument.
Mais je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu en concert. J'avais un prof de dessin qui l'adorait aussi. Alors, j'avais fait des portraits de Léo Ferré. Léo Ferré. Il était pas mal d'ailleurs, au fusain. Et,
tu l'as encore?
Alors non, c'est elle qui l'a, mais moi j'en ai un autre chez moi. Je l'aime bien. Mais bon, voilà.
Tu nous le montrerais, non?
Ouais, si tu veux, il faudrait que je retrouve.
Ah oui, si jamais tu l'as marqué.
L'art de portraiturer Léo Ferré est un peu difficile. Je trouve que. Voilà. Bon,
oui, mais c'est une liberté que tu t'accordes et qui est
intéressante. Ouais, des fois, on en voit un peu trop des. C'est comme les statues de Gainsbourg ou les. Bon, bref, mais bon, en tout cas, voilà. Et du coup, avec elle, avec ma prof de dessin, là, qui était grande fan de Ferré, on devait aller le voir à Avignon. C'était, je crois, au moment sur les poètes, justement. Mais ça a été annulé, je crois. Et après, je devais aller le voir, eh bien, au Grand Rex, parce que ma sœur m'avait envoyé un petit extrait de journal où il était annoncé, là. Je te l'ai envoyé.
Ouais, absolument. Et tu l'avais affiché chez toi?
Bah ouais, du coup, je l'avais découpé, puis affiché dans mon secrétaire, il y est toujours. Et puis voilà,
quelques années plus tard.
Ça n'a pas eu lieu.
Ça n'a pas eu lieu, ouais, absolument.
Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu. Et puis après, j'ai suivi. Alors, je suivais toujours, comme j'avais un peu de tout ce qui était officiel, j'étais toujours à la quête d'inédits, de trucs, voilà, la pétition pour l'édition des concerts de 67, etc. Enfin bon, et puis tout ça, et puis voilà, petit à petit, des choses sont sorties. Puis là, maintenant avec les intégrales, bon, je crois que il y a à peu près tout ce qu'il faut. Les dernières intégrales.
Ah, absolument. En toute logique, on a l'entièreté de l'œuvre de Léo. Tu l'as parcouru de long en large, cette œuvre? Sans forcément plonger directement dedans, mais comme tu me parles de La violence et l'ennui, est-ce que tu as parcouru les différentes étapes de création de Léo, les différentes époques?
Oui, bien sûr. Depuis... Oui, tout début jusqu'à enfin depuis je sais pas c'est quoi les tout débuts les le métro les choses comme ça là voilà, oui. les trucs un peu et moi j'aime beaucoup la période où alors pas les tout enfin si j'aime aussi mais c'est pas forcément ce dont je veux parler les premières chansons là premier album au piano là mais toute la période de Odéon en fait où c'est lui qui fait les arrangements je crois ils sont très beaux j'aime beaucoup l'album les 3 25 cm et puis l'album orange là tout ça c'est je me suis venu plus tard mais je trouve qu'il y a une légèreté une délicatesse des arrangements puis je sais pas. Après, la période Barclay, j'ai commencé plutôt par là. Après, après La violence et l'ennui, c'est quand même peut-être la plus accessible avec les arrangements de feuilles, tout ça. Donc voilà.
Et donc puis, avec le pavé, alors pour le coup, la période Barclay.
Ouais, voilà. J'avais acheté, il y avait une intégrale EPM qui était sortie.
Oui.
Qui était, alors c'était bizarre parce que les disques, c'était mélangé en fait. Les disques, ils n'étaient pas vraiment. Les chansons étaient dispatchées dans différents disques. Mais bon, je l'avais acheté. Et avec tous les trucs EPM. Et puis après, il y a eu les vieux copains. Metamec, après j'ai acheté les coffrets Maudit soit-il, en fait tout ce qui sortait au fur et à mesure, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et puis, donc tu t'es vraiment plongé pleinement dans cette œuvre.
Oui.
Ouais, vraiment.
Oui.
Est-ce que tu as lu un peu aussi, Léo? Comme tu as une approche un peu littéraire des choses, est-ce qu'il t'est arrivé de lire Benoît Mizet ou Alma Matrix,
J'en ai lu des extraits, mais j'ai rien lu en entier.
D'accord. Comme tu as ce petit penchant littéraire, ça aurait pu être effectivement aussi une dimension de Léo qui aurait pu te plaire, bien sûr. Et dans cette œuvre, est-ce qu'il y a des démarches qui t'ont particulièrement plu dans l'œuvre de Léo? Je pense bien évidemment à la mise en musique de poètes de langue française. Est-ce que ce sont des choses qui t'ont particulièrement marqué?
Alors, concerne la mise en musique de poètes,
c'est un travail que tu fais toi-même.
Ouais,
donc,
ouais. Alors, moi, je sais que l'album Verlaine Rimbaud, bon, il est très, très réputé, très réussi, etc. Ouais. Mais c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, pour Rimbaud, c'est pas ce que moi, personnellement, je préfère. Je préfère ce qu'il fait sur Verlaine. Ouais. Sauf quand ça devient un peu jazzy. Là, je suis pas trop. Mais. Pour donc la mise en musique de poèmes, j'avais bien aimé, beaucoup aimé sur Les Vieux Copains, La Maline.
Ouais.
Sur
on n'est pas sérieux quand on lit cet
album. Oui, voilà, tout ce qui est là, non, on n'est pas sérieux. Et puis dans un genre beaucoup moins orchestré, j'ai adoré le tout dernier, Une Saison d'Enfer.
Ouais.
Et là vraiment, moi j'aime beaucoup parce que. C'est fait avec il est tout seul, c'est fait avec trois fois rien, enfin un peu de piano, un peu de il tape dans ses mains, il s'y flotte, c'est complètement libre, sans que bon. Et en même temps, il y a des morceaux dans mon souvenir qui sont aussi très plus mélodiques et plus tout là la fin
davantage construit
matin, ouais, le piano, il me semble, c'est très beau là. Il y a l'éclair matin et puis.
Je crois que sur l'adieu, sur la dernière.
L'adieu,
Ou adieu tout court, oui, pardon. Ouais. Oui, ça, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu. Alors, pas dans les aboutissants, pas forcément, dans les tenants, en revanche, oui, qui ressemble un petit peu à ta méthode, à ton travail. Des choses un peu simples qui viennent sans vraiment beaucoup de.
Ouais. Alors là, c'est que je dirais que celui, c'est quand même un peu plus free, entre guillemets. Enfin, c'est plus, voilà, c'est...
Un peu plus free, tu dis ?
Oui. Enfin, je sais pas, je trouve que ça, c'est...
Ouais, non,
je dis, ouais, j'ai l'impression qu'il est vraiment... il s'exprime de manière très spontanée, là, dans ce... Alors moi, c'est quand même... je reste quand même à un format plus classique de mélodie, mais de mélodie assez définie. Mais ce que j'aime bien, c'est dans ce dernier album, c'est la légèreté et le côté un peu... Quand j'y pense, j'ai une idée d'un peu de transparence, un peu de trucs un peu cristallin, je sais pas, je pense à la fin, je me rappelle des trucs comme ça. Et moi, alors là, enfin, c'est quelque chose, effectivement, que c'est des qualités que j'aime beaucoup, ça. Et que, moi, que je vois dans Rimbaud, en fait. Plus que, enfin, c'est cet aspect-là de Rimbaud qui m'intéresse. Ce qui est l'air, l'eau, ou une forme de, voilà, enfin, pour en reparler, mais de tout ce qui est, comme dit Verlaine, il dit pas de ténuité, voilà, et pas, moi, le Rimbaud plus grinçant, avec des textes plus longs, ou plus
grinçant,
oui, un petit peu, voilà, inspiré, plus du début, du coup. Ouais. Des débuts, et il se trouve que c'est un peu ces poèmes-là que Léo Ferré a mis en musique, dans notamment, je sais pas, Les Assis, après c'est super, hein, mais c'est pas forcément ce Rimbaud-là que je préfère.
D'accord, voilà. Là, tu nous parlais davantage de l'œuvre de Rimbaud que de l'œuvre de Léo, quoi, disons, voilà. Tu ne retrouves pas forcément la même inspiration, la même... fibre rimbaldienne chez Léo que chez toi. Vous êtes inspiré par différents types de Rimbaud, lui.
Voilà, peut-être. Sauf, je te dis, je trouvais un peu des qualités de transparence dans la musique du dernier. Là.
D'accord.
Peut-être que tes paumes ont seulement été creusées par un peu d'eau de mer. Rien d'autre à dire. une tourterelle broyant la lumière.
Rimbaud en musique, et tu nous diras tout à l'heure si d'une certaine manière, je vais utiliser une expression à la con, mais tu vas voir pourquoi je l'utilise, tu t'inscris dans les pas de Léo de manière imagée en mettant toi-même en musique les poètes. C'est une expression à la con, on y reviendra bien évidemment. Ce que je voulais dire par là, c'est que si tu ne t'inscris pas de manière imagée dans les pas de Léo, il t'est en revanche arrivé de t'inscrire de manière physique dans les pas de Léo, puisque tu connais Castellina in Chianti.
Ah oui, c'est un beau souvenir. Oui, oui, on était là avec ma compagne il y a... maintenant, c'était en 2004, tu vois, il y a un peu plus de 20 ans. Mmh. Oui, écoute, je sais pas, on venait de se rencontrer, puis on avait envie de faire un truc sympa. Et comme, voilà, j'avais cette grande affection pour l'œuvre... aussi, a priori, le personnage de Léo Ferré. On s'est dit qu'on pourrait envoyer une petite lettre à Marie-Christine et lui dire qu'on aurait eu envie, en hommage à Léo, de venir faire les vendanges.
Ah oui.
Voilà. Et du coup, elle a été super gentille et nous a dit je serai à Paris là, on se retrouve du côté de la Madeleine.
Ah, très bien.
Puis on a discuté comment on allait y aller. On a dit on prendra un scooter de Sienne jusqu'à Castellina. Elle a dit vous rendez pas compte. Donc finalement on a loué une petite voiture et puis on est arrivé après et voilà, c'était vraiment très 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 agréable. Il y avait Marie-Christine est vraiment une femme qu'on a beaucoup appréciée, extrêmement gentille. On continue à s'envoyer des vœux.
Ah, très bien.
Voilà. Et puis,
combien de temps avez passé là-bas?
Une dizaine de jours. Ouais, une dizaine de jours. C'était très sympa. On faisait des parties de loup-garou à table.
Qu'est-ce que c'est?
Tu sais, le loup-garou, c'est une sorte de jeu de rôle, en fait, avec les villageois. Il y a les villageois, il y a le loup-garou, il y a la sorcière, voilà. Enfin, on ferme les yeux. Enfin, je pense que ça parlera peut-être à certaines personnes. C'est difficile à expliquer.
D'accord.
C'est une sorte de jeu de rôle qu'on peut faire à table. Et puis, on faisait des parties de cache-cache dans le jardin aussi. C'est un super souvenir.
Et le reste du temps, tu faisais donc les vendanges.
Que il reste, oui.
Ouais, d'accord. Mmh. Et c'était agréable, alors du coup,
s'inscrire dans ce paysage,
ce contexte aussi.
On parlait pas de Léo Ferré.
Ouais.
Mais c'était le lieu est très beau. Les gens étaient. On a rencontré des gens très intéressants. Voilà, c'était un très beau.
Un beau moment.
Ah, on s'était dit qu'on faudrait y retourner. On voulait présenter notre fille à Marie-Christine, mais on n'a pas eu le.
Pas eu l'occasion encore.
Non, encore. Voilà. Du coup, maintenant, elle a 17 ans.
Ah oui, ben.
Donc, mais elle n'est pas très sérieuse.
Ah ben, ce qui est un peu normal quand même. Quoi.
Voilà.
Un beau souvenir, j'imagine, quand même, ce moment à Castellina.
Oui.
Avec
donc merci et bonjour et à Marie-Christine.
On va parler du groupe Claire, qui est le groupe dont tu es la cheville ouvrière. Voilà, je cherchais encore une expression ou une autre. Avant de rentrer dans ton travail de musicien, pendant la préparation de cette émission, on s'est croisé une fois, on a bu un verre ensemble, tu as cité un nom qu'un autre auditeur de l'émission, qui s'appelle Sébastien, il y a quelque temps de cela, il nous avait envoyé son témoignage d'amateur de Léo. Il avait dit quelques mots au sujet de sa passion, comment était née sa passion de Léo. Et dans les quelques mots qu'il disait, une vingtaine de minutes, il a cité un nom que tu as cité également. C'est Marcel Canche. Ah oui. Marcel Canche, qui est un artiste, qui est un musicien, et tu as une histoire, qui est un musicien qui a une histoire lui aussi particulière avec Léo, puisqu'il a fait un album de reprise de Léo.
Oui, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je voulais évoquer cet album.
Bah avec grand plaisir.
Je trouve dans les reprises, de Léo Ferré, je trouve que c'est vraiment très réussi. D'ailleurs, il y avait un texte inédit, en fait,
Oui, je crois bien.
C'était comment, Le Chemin d'Enfer ou...
Ouais, absolument, voilà. Qui à l'époque était complètement inédit, ouais. Ouais.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait là. C'était avec des musiciens plutôt de jazz, voilà. Et j'avais vu en concert aussi. Voilà, je voulais
le mentionner.
Le mentionner, ouais.
Ouais, tu fais bien. Je ne le connais pas, cet album. En revanche, c'est vrai que bon, il s'appelle Évint un mec d'outre-saison, paru en 2012. Évint un mec d'outre-saison, c'est une phrase qui est prononcée dans l'épilogue de l'Opéra du Pauvre. Donc, faut aller le chercher, ce genre de texte. Et c'est vrai que les chansons dont il fait des interprétations sont pas les plus fréquentes de Léo, sont pas les plus connues. On a Requiem, on a Préface, on a Le Chien, Tu penses à quoi, Ni Dieu ni Maître. Et puis cet épilogue, justement, de l'Opéra du Pauvre, c'est vraiment rare d'aller la chercher. Et j'avoue que du coup, ça a éveillé ma curiosité. Si tu as cet album de Marcel Canche chez toi ou en format, je l'écouterai avec grand plaisir.
D'accord, ouais, bah je te le... Ouais,
et on pourra peut-être d'ailleurs s'en écouter une durant cette émission, si tu veux bien. Mais je crois que tu as aussi, toi, en tant que mélodiste, une histoire avec Marcel Canche.
Ah non, pas en tant que mélodiste. Non, c'est que je lui avais envoyé, je fais des poésies aussi.
J'écris
des
poésies, des petites poésies. C'est le texte, c'est facile.
Et je lui avais envoyé, on est en relation, pas épistolaire, enfin je sais pas comment on dit, par mail. depuis un moment, comme j'aimais bien ce qu'il faisait, je lui avais envoyé quelques textes et on a échangé. Il a été très très gentil, très gentil, très ouvert, très cordial. On s'écrit de temps en temps. Et puis un jour, je fais des petits recueils autopubliés. Alors je lui envoie à quelques personnes, dont à lui. Et voilà, on a cet échange. Et puis, du coup, un jour, il a mis un poème en musique.
De ce recueil.
Ouais, j'étais très content. C'est super beau.
Et, comment s'appelle-t-il?
Ça m'a fait plaisir. Le poème, il n'a pas de titre, mais il lui a donné pour la chanson le titre de Broyant la lumière.
Broyant la lumière, très bien.
Voilà. Et dans son dernier album.
On en vient à ton travail de musicien avec le groupe Claire. Et avant cela, de la même manière que tu as un lien particulier avec Léo, on peut le dire, tu as forcément, en tout cas, ça interpelle celui ou celle qui découvre l'œuvre de Claire, tu as forcément un lien particulier avec Rimbaud. Mmh. Puisque Rimbaud est, jusqu'à présent, peut-être que ça va changer un petit peu dans les mois qui vont venir, mais jusqu'à présent, le seul poète que tu as mis en musique. Et comment ça se fait? D'où vient cette volonté de ta part de mettre Rimbaud et seulement Rimbaud en musique?
Alors, seulement Rimbaud jusqu'à présent, oui. Après, comme tu dis, je me reste pas bloqué sur Rimbaud.
Non,
c'est une bonne veine, on va dire. C'est une bonne veine. Il y a plein de choses à faire avec Rimbaud, donc pour l'instant ça m'a occupé, voilà. Et c'est pas fini. Après Rimbaud, un peu comme tout le monde, je viens à Rimbaud par la photo, les trucs comme ça, j'habitais d'ailleurs pas loin de dans son quartier, dans le quartier latin, pas loin de, notamment où il a à l'hôtel rue de la vers la Sorbonne, là où il avait logé, écrit une lettre fameuse là. Et moi j'habitais pas loin, j'habitais rue de la Montagne Sainte-Geneviève.
Ouais.
Eh ben, je sais pas, j'avais 20 ans. Puis j'avais mis la carte postale, comme ça, sur ma porte. Donc, à l'origine, voilà, c'était une espèce de curiosité, d'intérêt un peu, voilà. Puis après, bon, ben voilà, j'achète le livre. C'était un petit livre que j'aimais aussi beaucoup, c'était chez Mille et une Nuits. Mmh. Un petit livre bleu, vert et rouge. Et voilà. Et après, ben, petit à petit, mais c'est pas un peu au hasard, quoi, en feuilletant par-ci, par-là. Et puis après, ben, l'intérêt se prend. Voilà. Et alors après, pourquoi Rimbaud m'a intéressé par rapport à la musique, ben, moi, je me suis tout de suite axé, comme je te dis. Alors, si, quand même, il y a longtemps, hein, c'était avec un ami, Pierre, on avait il m'accompagnait à la guitare et j'avais fait alors Les Mains de Jeanne-Marie, L'Orgie parisienne ou Paris mmh. Repeuple et les Sœurs de Charité.
D'accord.
Ce sont des textes là pour le coup longs, etc. Alors, je fais une mélodie très simple, cyclique et puis on chantait ça. Mais bon, j'ai pas enregistré.
Tu chantais?
Oui, je chantais. Ouais. Pardon, je chantais et je jouais de la... Et puis après assez vite du coup moi quand j'ai quand même un peu moins pris au hasard et je me suis axé sur des textes qui sont les textes de 72 à peu près qui sont en fait les derniers qui recueillis plus ou moins sous le terme de dernier poème.
D'accord.
Dernier poème par rapport à après il va y avoir une saison d'enfer, une chose comme ça. Mes poèmes, voilà. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, c'était des textes qui correspondaient qui avaient ces qualités que j'aime beaucoup, qui sont, la ténuité, la transparence, la simplicité, apparente en tout cas, et puis qui semblaient proches de petites chansons. Qui avait une forme qui était d'ailleurs j'étais tout à fait après en creusant un peu on s'aperçoit que effectivement à l'époque Rimbaud il s'intéressait un petit peu à cette direction là à cette forme en compagnie de Verlaine d'ailleurs c'est l'époque aussi des romances sans parole où il y a on voit bien que ça tire un peu vers quelque chose de qui se rapproche un peu de parfois un peu d'une forme assez courte et qui peut se dans la structure avec une amorce de refrain quelque chose comme ça qui ressemble à une petite chanson
avec la chanson ouais
voilà enfin
tu penses qu'il y avait
toute réserve
il y avait cette volonté créatrice de sa
part. Je pense qu'il s'intéressait à pas vraiment pour faire des chansons mais il s'intéressait tous les deux à ce moment-là je crois enfin je suis pas un spécialiste hein, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que en tout cas et c'est Rimbaud il voulait à ce moment-là rassembler il avait une sorte de projet plus ou moins avec ces projets-là de... Alors, je ne sais plus exactement comment il appelait ça, ou si c'est lui qui a appelé ça, ou quelqu'un d'autre, étude néante, chose comme ça. Donc, quelque chose, c'est par rapport à ce que je te disais sur la légèreté, la transparence, néante, c'est-à-dire la ténuité. La ténuité, tout ça, voilà. Et, d'ailleurs, Claire, ça a été choisi aussi, le nom du groupe, pour cette qualité, de clarté. Voilà, il y avait quand même un groupe de poèmes qui avait une certaine cohérence entre eux, qui allait chercher dans la même direction, il me semble. Voilà. Après, je suis pas un rimbaldien professionnel. Hein.
Oui, mais enfin, tu es.
Je veux pas dire de bêtises.
Non, mais on entend bien. Mais enfin, tu as quand même un lien particulier avec lui, parce que trois des cinq albums de Claire, donc le groupe ton groupe, voilà. Ouais. Donc, ton groupe. Trois de ces cinq albums sont des mises en musique de poèmes de Rimbaud.
Oui, tout à fait, parce que après, alors il y a ces poèmes de 72, et puis après, moi je me suis intéressé à d'autres groupes de poèmes, notamment tous ceux de l'album Zutique, écrit dans le cadre du cercle Zutique. Bon, il faudrait. Alors qu'ils sont un genre, qui sont dans des genres beaucoup plus farcesques, grotesques.
D'accord.
Contrairement à ceux de 72 qui ont quelque chose à voir avec, une forme de grâce, en fait. C'est quelque chose, tout d'un coup, là, c'est presque rien. Et puis, en même temps, c'est une magie. Alors les autres, bon, pour le cercle Zutik, c'est, voilà, c'est souvent...
Qu'est-ce que c'est le cercle Zutik?
Le cercle Zutik, ben, c'était Farabou quand il est arrivé à Paris là, en 71. Il a assez rapidement, il s'est retrouvé avec un groupe de personnages qui étaient issus des dîners... des villas bonhommes, voilà, enfin un groupe de poètes qui se réunissaient donc dans un local à l'hôtel des étrangers qui était du coup au bout de la rue Racine et de la rue de l'école de médecine, et ils se retrouvaient là. Et bah, ils fumaient, il y avait un piano, ils buvaient, ils menaient une vie.
C'est un cercle dont ils faisaient partie.
Voilà, voilà. Et donc il y avait un cercle tout à fait informel. Enfin, oui. c'était un peu le bazar. Voilà. Et il y avait une sorte de livre d'or. Et ce livre d'or, d'ailleurs, il y a eu le fac-similé qui avait été publié chez Pauvert, je crois.
D'accord.
Et donc il y avait des petits dessins et chacun pouvait écrire une petite poésie, un petit texte, un truc comme bon lui semblait. Et c'était souvent des textes, comment dire, satiriques par rapport à certaines têtes de Turc qu'il pouvait avoir dans le milieu littéraire, au Copé, ou choses comme ça.
D'accord.
Et on trouve, il y a quelques trucs connus dedans. Par exemple, il me semble bien que le sonnet du trou du cul, il est dedans.
D'accord.
Là, ce qui m'a plu aussi, voilà, c'est que c'était des formes très très courtes et assez... voilà. J'aime bien aussi la veine, alors qu'elle est complètement différente des poèmes 72, une veine un peu scato, chose comme ça, qu'il peut y avoir dans Rimbaud, c'est ça aussi. Hein, c'est ça que j'aime bien chez Rimbaud, c'est le mélange entre un truc... un cristal, voilà, l'eau de source, enfin quelque chose de, et puis par ailleurs voilà, des choses très triviales,
la fange également,
très triviales, voilà. Et ça, moi j'aime beaucoup le mélange de tout ça, voilà. Et puis je suis allé chercher dans les illuminations aussi. Mm-hmm. Et puis dans la saison d'enfer.
Ouais.
Puisque dans l'album, dans un futur album, on a enregistré, du coup, il s'appelle Matin.
Oui.
Matin. Et puis après, je suis allé papillonner un peu sur différents trucs. Des poèmes que j'ai mis en musique, mais que j'ai pas enregistrés pour l'instant. Des poèmes de Verlaine, mais qui parlent directement de Rimbaud. Ou des poèmes, d'autres poèmes qui peuvent citer Rimbaud. Enfin voilà, j'ai un peu élargi, mais pour l'instant, c'est pas enregistré. C'est mis en musique, mais c'est pas enregistré.
C'est dans un coin.
Voilà. Donc tout ça pour te dire qu'il y a beaucoup de matière, hein, voilà, et des directions esthétiques qui peuvent être diverses et intéressantes.
D'accord.
Voilà.
Avec des textes d'une nature différente en fonction de l'inspiration.
Fait, tout à fait.
D'accord.
Et pour les illuminations, c'est intéressant puisque là, du coup, il y a plus du tout de, c'est de la prose, quoi. Donc pour la mise en musique, c'est très intéressant.
Ouais. Ça facilite les choses ou quoi?
Je sais pas te dire.
En tout cas, c'est
je dirais que ça évite de peut-être de. Ça apporte peut-être plus de variété. On se répète moins, peut-être. En même temps, ça peut tendre un peu vers une forme de. Pas de récitatif, mais oui, presque un peu de récitatif. Voilà, c'est pas pareil. Moi, j'aime bien. Mais du coup, c'est petit à petit, on débobine le fil du texte et on avance comme ça.
Plate-bande d'amarante jusqu'à l'agréable palais de Jupiter. Je sais que c'est toi qui dans ces lieux presque de Sarah, puis comme un rosé sapin du soleil, Eliane ont ici larges enclos, cage de la petite veuve qu'elle, troupe d'oiseaux, ouïa, io, ia, io, calme maison, ancienne passion, kiosque de la folle par affection, après les fesses des rosiers balcons. Ombres très bas de la Juliette, la Juliette.
charmante sœur appelle l'enrayette, charmante station du chemin de fer. Danse dans l'air, vent vert ou chante au paradis d'orage, sur la guitare la blanche irlandaise, puis de la salle à manger guyanaise, bavardage des enfants et des cages, fenêtre du duc qui fait que je pense au poison des escargots et du buis qui dort ici bas au soleil, et puis c'est trop beau, trop, gardons notre silence. Boulevard sans mouvement ni commerce, tu es tout drame et toute comédie. Réunion des scènes infinies, je te connais et t'admire en silence. Je te connais et t'admire en silence.
Là, tu as entre les mains un disque qui s'appelle Aube d'été, c'est ça?
Ouais.
Et qui est donc la dernière production du groupe Claire.
Oui.
Claire, à qui apparaît en 2015.
Oui, c'est ça. On avait enregistré cinq titres en 2015.
Voilà, vous avez une page sur un réseau social de partage de musique qui s'appelle Bandcamp.
Ouais.
Et on voit effectivement les cinq, jusqu'à présent, la discographie complète de Claire. Le premier des cinq opus que vous avez publié, c'est le 30 août 2015. Oui, le 30 août, c'est le jour où a commencé l'émission Le Ferry Club aussi. Donc c'est une date, je connais des gens qui sont nés le 30 août, donc c'est une date à laquelle je suis attaché. Et donc c'est la première publication qui commence à ce moment-là, avec cette fois-ci des mélodies signées de toi, Gildas, des textes également signés de toi, parce qu'on n'est pas encore dans le travail de mise en musique de Rimbaud à ce moment-là, au tout début.
Non. L'origine de ce projet, ce groupe, il s'appelle Claire. C'était l'envie de faire des chansons, donc j'avais des chansons, j'avais un certain stock, et puis le déclencheur ça a été quand j'ai rencontré Géraldine et en vacances, enfin, et puis tout d'un coup je sais pas, il y avait une guitare ou voilà, et puis je lui ai proposé de chanter. Moi j'ai bien aimé sa voix et qui m'a inspiré, parce que j'y trouvais un petit peu j'ai beaucoup aimé sa voix parce que j'y trouvais toujours ses qualités d'un peu de ces mêmes matière un peu aquatique ou de verre ou je sais pas. Voilà, et à partir de là c'est développé une sorte de personnage, on va dire, un peu. C'est d'ailleurs le mot Claire joue un peu sur l'ambiguïté aussi. Claire, ça existe en fait comme prénom masculin, mais en fait ça jouait plutôt sur Claire puisque c'est une voix féminine, donc entre personnage et qualité, quoi. Et donc cette espèce de personnage qui était Claire, qui était un personnage un peu pas défini comme tel, mais dans mon esprit, qui a ce personnage qui a inspiré les chansons, qui était une sorte de personnage un peu transparent, avec cette présence absence, voilà. C'est de toute façon, c'est quelque chose qui autour de quoi je tourne beaucoup, hein. Voilà, une espèce de présence absence, façon d'habiter le monde un peu, en y étant sans y être, et puis voilà, enfin bon. Et il y a cette chanson qu'on a enregistrée, qui était vieille, qui s'appelle Pala. C'était Joseph Robin qui faisait les arrangements au piano. Et puis, on a fait des concerts par-ci, par-là. Et puis après, on a rajouté cette guitare, voilà. Et on a fait deux fois cinq titres.
Voilà, les deux premières parutions, donc deux fois cinq titres. Là, on n'est pas encore dans Rimbaud, on est vraiment dans tes textes, dans tes mélodies. Et toi, tu n'interviens pas, on est d'accord. Hein. Enfin, tu es le compositeur, tu es l'auteur, mais tu n'interviens pas en tant que musicien, proprement
parlé. Non, après, j'étais là pour répéter, en donnant quelques directions, trucs comme ça, autant que je pouvais.
Bien sûr.
Mais voilà, c'est quand même une position un peu bizarre. Donc, au bout d'un moment, je m'en suis quand même un peu aperçu de cette position. C'est pour ça que maintenant, je te fais un petit accéléré.
Attends, excuse-moi, position un peu bizarre d'être là sans être là?
Oui.
D'être l'instigateur.
Par exemple, au concert, qu'est-ce que tu fais? T'es assis à côté. Oui. Après, on s'est mis à faire quelques duos. Voilà. Et puis voilà, en fait, au début, comme je te dis, je voulais pas chanter parce que J'avais envie de voilà de voir
d'autres choses.
De voir d'autres personnes prendre possession des choses et puis après je voilà petit à petit je me suis dit bah en fait j'ai quand même envie de chanter et puis donc je maintenant c'est moi qui chante
voilà.
Et on avait quand même introduit des Rimbaud petit à petit dans le tour de chant. On avait mis à la fin du tour de chant, on mettait un ou deux Rimbaud. On mettait principalement, c'est pas l'éternité, c'est aux saisons.
D'accord.
Aux saisons et l'éternité. Et puis après le petit duo d'un texte qui vient de l'album Zuti qui est Jeune Goinfre.
D'accord. L'éternité qui n'apparaît pas sur l'album, si ?
Sur l'album, il y est, mais je regrette de l'avoir mis parce que je ne suis pas content de la version. Je vais le réenregistrer. D'ailleurs, il n'est pas sur Bandcamp, je l'ai enlevé sur Bandcamp. L'éternité.
Ah, d'accord.
Parce
que tu n'es pas satisfait aujourd'hui.
Donc, je compte le réenregistrer. Je ne suis pas satisfait. C'est pas la question de la voix, c'est la question de. Je sais pas, de la manière dont ça manque d'évidence, voilà.
Manque d'évidence.
Oui.
Voilà. D'accord. Très bien. Quand tu le réécoutes, c'est pas ce que tu as envie d'entendre.
Voilà. D'accord. J'aime bien que ça, qu'il y ait une forme d'évidence et qu'il n'y ait pas.
D'accord.
Mais ça tient à pas grand chose, mais.
Bien sûr. Bah, ça tient à ce qu'il y a en toi, à ton ressenti quoi, d'auteur. En 2015, un premier album donc, qui n'a pas vraiment de titre, hein, qui est self-titled, comme on peut le dire maintenant,
voilà.
Avec cet anglicisme. Ensuite, en 2017, un deuxième opus, 5 titres cette fois-ci, qui s'intitule Vie parallèle, avec toi, enfin avec Géraldine et toi. Non,
je ne chante pas.
Oui, pardon. Il n'y a que Géraldine qui chante, avec Joseph Robin dont tu nous as parlé, qui au début se contente, sur le premier opus, je crois, il se contente du piano.
Oui, c'est ça, il n'y a que du piano. Il doit y avoir un petit peu de mélotron, des choses comme ça. Enfin, que du ouais, pratiquement que du piano.
Et sur le deuxième, en revanche, il l'augmente.
Ah non, attends, je me trompe. Non, excuse-moi. Il y a aussi de la guitare sur le premier avec un autre guitariste que.
Jérémy Zichrist.
Voilà. Qui est un ami cher qui est guitariste, qui vit en Suisse et qui a pas mal de projets musicaux là-bas, des
D'accord.
groupes intéressants. Voilà.
Qui a une petite, qui a des faux airs Dominique A dans sa guitare, non? Un peu.
J'aime beaucoup ce qu'il fait, peut-être. Ouais, c'est très sensible.
T'aimes beaucoup ce que fait Dominique A ou
Jérémy Zichrist.
Jérémy Zichrist. En 2017, donc ce deuxième opus Vie parallèle, qui paraît donc avec la même équipe.
Non, du coup le guitariste avait changé. C'était Nils Fréchila.
Ah, d'accord, très bien. En revanche, Joseph Robin, lui, cette fois-ci, ajoute comme instrument, il était vraiment juste sur le piano, donc peut-être un peu le mélotron aussi sur le premier. Ouais. Sur le deuxième opus, il y a le rod, il y a l'accordéon, le marimba, le glockenspiel.
Oui, on a fait un peu. Il y a même un peu de batterie, c'est ça, voilà. Et là, la batterie, je voulais juste signaler, c'est
Christian Sautemayer,
qui est un ami aussi, musicien, ingénieur du son, qui travaille pour le spectacle vivant, qui est un très bon ami, qui a enregistré... du coup, les deux premiers albums, qui a réalisé tout ça, et aussi le premier Rimbaud, et le deuxième aussi.
D'accord, très bien. Donc bien impliqué. Est-ce que tu ne nous proposerais pas à l'écoute un extrait d'un de ces deux premiers opus pour qu'on ait un peu une idée de à quoi ressemble ce premier travail avant la rencontre artistique avec Rimbaud ?
Oui.
Est-ce qu'on pourrait s'en écouter une maintenant, un extrait d'un de ces deux premiers ? Je te laisse le choisir et nous le présenter.
Moi, j'aime bien tant de choses dans le deuxième album. Je trouve qu'elle est, elle est pas mal réussie. C'est toujours des chansons un tout petit peu. Comment dire, modestement, un peu, comment dire, existentiel, enfin, voilà, toujours sur cette espèce de façon, enfin, de rendre compte, voilà, d'une difficulté ou d'un étonnement, voilà, de se trouver dans le monde. Donc là, c'est tant de choses, voilà, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, là, voilà, comment ça tient, ça marche, voilà. Et c'est comment, c'est aussi, faudrait tout saisir, on a envie de beaucoup de choses, est-ce qu'on va y arriver? Et puis, finalement, tout ou rien. Je sais pas. Voilà, c'est cette espèce de vertige un peu devant. Voilà. Oh, tout ce qui existe, tout ce qui se fait. Et puis nous, on est là au milieu. Voilà. C'est pas. C'est assez banal, mais voilà. C'était cette espèce de sentiment là, voilà, par rapport aux choses.
Tant de choses au monde, tant de choses à la ronde, les aubernes et les blondes, les chansons sur les ondes, tellement de choses. Quand voudrais-tu une pause? En ferais-tu le tour un jour? Tant de choses au monde, des silences. Des feuilles et des branches, tellement de choses, sans qu'on sache la cause. En fera-t-on le tour un jour? Et des mille et une raisons qui font que tout ça tournera.
Radio Libertaire.
À la semaine prochaine. Au plaisir de vous revoir.
Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut.
Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payer la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti.
Des malons pour s'adjouer, appelez dans mon bel et
ouais, mais encore. Viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin.
Viens mon oncle s'adjouer en plein dans mon bel air, ouais, mais t'es voyant les peaux.
Je sais par cœur
toutes tes grâces. Et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. Petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. Des manons pour ça jouer à plein à mon bel à ouais, des poignons les peaux. Des manons pour ça jouer à plein à mon bel à ouais, des poignons les peaux. Des manons pour ça jouer à plein à mon bel à ouais, des poignons les peaux.
Einstein, Tchekhov, Héraclite, Lamennais, Lénine, Souriot.
Choisis ton opium, Dieu est subtil, mais pas malicieux.
Tu n'as pas voulu imiter, tu es esclave.
Tu n'as pas vaincu l'amertume. Tu es éternellement convalescent.
Moi, quand je vois le printemps, je désire vraiment que dans l'autre monde, il y ait un paradis.
Si ton âme est inculte, tes yeux, tes oreilles sont de mauvais témoins. Et il n'y a de paix pour l'intelligence que lorsqu'elle est certaine de posséder la vérité.
Moi, quand je vois le printemps, je désire vraiment que dans l'autre monde, il y ait un paradis.
L'âme vivante du marxisme, l'analyse concrète d'une situation concrète te sera à jamais obscur. Mais il n'existe pas de conflit sérieux entre le beau et l'utile.
Moi, quand je vois le printemps, je désire vraiment que dans l'autre monde, il y ait un paradis.
Choisis ton opium, Dieu est subtil, mais pas malicieux.
Je rêve dans tes yeux de tout repeindre à tes couleurs. Mes chansons, mes amis, mon cœur. Tu es ma chance, mon sourire, mes pleurs. Paris, la France est ma chandeleur. Je rêve et dans tes yeux qui sont la lumière vivante. Je rêve et dans tes yeux il y a ce bleu qui chante. je rêve dans tes cheveux, de cette terre horizontale, où les chevaux vont deux par deux, suivis d'un vieil architecte bancal, changer le blé en cathédrale. Je rêve dans tes cheveux, qui sont une moisson vivante. Je rêve dans tes cheveux, à tout ce blé qui danse. Je rêve entre tes bras, d'un fils qui te ressemblera. Pas un paumé, pas un bourgeois, mon fils à moi sera un homme, tu vois, qui s'il se bat, saura pourquoi. Je rêve, et si je rêve, dans tes bras c'est que je t'aime. Je t'aime, et si je t'aime, c'est que mon fils en toi s'éveille. Je rêve pour nous deux, d'une simple tombe au couchant, sans rien derrière ni devant. Ma tombe à moi, c'est ta tombe, tu vois, un lit profond.